L'oiseau bleu. Quelle est cette pièce que Moscou ne cessa jamais de représenter depuis sa création? Quelle est cette œuvre qui attira nombre de cinéastes? Il faudrait comprendre. Lorsqu'il compose cette féerie en 1908, l'écrivain belge Maurice Maeterlinck est à mi-route du chemin qui le mène au château familial d'Ostacker, au palais d'Orlamonde. Sur les bords de Seine, les ruines romantiques de l'ancienne abbaye normande de Saint-Vandrille lui inspirent des images fantastiques aux fragrances surréalistes. Georgette Leblanc, sa compagne, profite de ce splendide décor naturel pour monter Shakespeare en plein air. Dans ce site aéré, Maeterlinck, fasciné par le roi Lear et qui s'est jadis occupé de traduire les Élisabéthains, opère différemment. Plus question des rapports de ses amants à la dérive de leur monde, aux côtés de l'univers égaré des puissants, de ses grandes pièces symbolistes, mais d'enfants et de parents, de comètes vénéneuses, d'arbres et d'animaux presque humanisés. Au cœur de cette féerie, le songe prend alors son essor quand le propos se fixe autour des origines concrètes de la vie et le texte porte tous les rêves progressistes du XIXe siècle. Sans violence, certes, mais avec cet optimisme paisible que la Première Guerre mondiale réduirait à l'état de fantasme puéril. Dans l'oiseau bleu, ce jeune garçon soucieux de savoir et de vérité n'est-il pas le reflet de cette quête de la lumière qui caractérise le théâtre de Maeterlinck? Les dialogues qui se déroulent dans le palais de la nuit ne sont-ils pas tissés à la lumière de l'opéra de Mozart? L'œuvre de Maeterlinck, douce féerie philosophique, nous transporte dans une atmosphère enchantée et nous délivre un message de sagesse. En peignant avec force couleur, les pans de l'âme que nous laissons souvent dans l'ombre s'illuminent. Dans leur voyage à la recherche de l'oiseau magique, les deux enfants, Tyltyl et Mytyl, ne courent pas l'aventure ordinaire des contes. Ils n'affrontent pas l'ogre, le dragon, la méchanceté des fées ou la malice des objets enchantés. Leur voyage est une aventure morale, un apprentissage vers la sagesse. Mais voici l'histoire. La femme du bûcheron, Tyl, vient border pour la nuit son petit garçon, Tyltyl, et sa petite fille, Mytyl. La lampe est éteinte. Le feu de bûche achève de mourir au fond de l'âtre et les deux enfants dorment paisiblement dans leur lit de bois, pareil à des barquettes peintes. Or, voici qu'une lueur étrange glisse aux fentes des volets. On fête Noël en face, chez les petits riches. Un sapin chargé de jouets triomphe au milieu des lumières. Tyltyl et sa sœur, évadés de leur lit et juchés sur une table devant la fenêtre, contemplent ces merveilles en chemise, le nez écrasé contre la vitre. Nul chagrin, nulle envie. Ils dansent au son de la musique jouée pour d'autres. Ils savourent en imagination les gâteaux mangés par d'autres. Quand un coup brusque, frappé contre la porte, les fait détaler pieds nus vers leur couchette. À peine y sont-ils couchés, feignant un sommeil bien sage, qu'une vieille vient en boitant pencher sur eux sa face fripée. Dos courbé, œil crevé, nez crochu, haute béquille, tout l'aspect d'une carabosse. C'est la fée Bérylune. Avez-vous ici l'herbe qui chante ou l'oiseau qui est bleu ? Demande-t-elle. L'étrange question n'effraie pas les petits, mais l'herbe qu'ils ont ne chante pas. Et l'oiseau qui dort là-haut dans la cage accrochée aux solives n'a pas assez d'azur aux ailes. La fée insiste. Il lui faut absolument l'oiseau bleu. Les enfants devront partir sur l'heure à sa recherche, aidés dans leur voyage par un merveilleux chaperon vert dont il suffit de tourner le diamant pour voir l'invisible, revoir le passé ou prévoir l'avenir. Afin d'essayer le prestige, la fée coiffe Tyltyl du chaperon. Aussitôt, elle apparaît radieuse de jeunesse et l'âme qui est dans chaque objet s'envole. Les pierres des murailles révèlent leur essence précieuse. La vieille horloge, ouvrant sa porte vitrée, laisse échapper les 12 heures qui dansent en farandole au rythme d'une fine musique. Dans la huche, les pins soulèvent leur bedaine dorée. Une forme rouge, sans cesse mouvante, poursuivante et chuchotante, jaillit de l'âtre. Le chien Tilo, remplissant la chambre de son tapage affectueux, accable Tyltyl de caresses et de protestations. « Bonjour, bonjour, mon petit dieu, je t'aime. Veux-tu que je fasse quelque chose d'étonnant? Que je fasse le beau ?» Cérémonieuse et circonspecte, la chatte vient présenter à Mytyl ses compliments. De la fontaine, forme fluide et vêtue d'émeraude, l'eau s'échappe en pleurant. Le lait, sorti de son pot, paraît pudique et peureux sous ses belles loques blanches. Et le pain de sucre promène doucereusement à travers la chambre, sa tête en pointe. Enfin, de la lampe tombée, surgit une vierge éblouissante, que Tyltyl prend pour la reine et Mytyl pour la Sainte Vierge. C'est la lumière. Le voyage au pays merveilleux peut enfin commencer.